Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Sanhedrin, page 40, daf mem. Bonne écoute et bon limoud.
Dans le chapitre précédent, la Mishnah a commencé à décrire le jugement où la peine capitale est en cause. La Mishnah a enseigné notamment que pour ce type de jugement, le tribunal doit être composé de 23 juges. Alors, la Mishnah a ensuite décrit qu'avant d'accepter le témoignage, les membres du tribunal faisaient peur aux témoins en attirant leur attention sur la gravité d'un faux témoignage et des conséquences d'une condamnation d'une personne innocente. Alors, s'ils ont accepté de témoigner, la Mishnah dit « Hayu bodkin otam besheva hakirot ». Les membres du tribunal vérifiaient les témoins pour s'assurer que leur témoignage concorde en leur posant cette question, dont les réponses sont indispensables. En effet, il s'agit de questions concernant le lieu et la date du crime. Ces données sont importantes parce qu'elles permettront à d'éventuels témoins de venir contredire ce témoignage en disant que ces témoins n'ont pas pu voir ce crime parce que ce même jour, ils étaient avec ces mêmes témoins dans un autre endroit d'où ils n'ont pas pu voir ce crime. Par conséquent, ce sont des faux témoins. Dans ce cas, les premiers témoins seront nommés Edim Zomemim, témoins comploteurs, et il leur sera infligé la même peine qu'ils voulaient faire infliger à l'accusé. Et comme la Gemara le dira plus loin, un témoignage qui ne peut pas être contredit de manière à ce que les témoins soient considérés témoins comploteurs ne sera pas accepté. C'est pour cela donc que sans répondre à ces questions, le témoignage sera refusé. Alors la première question, Be'ezé Shavua, quelle septaine d'années? C'est-à-dire, à l'époque, les années étaient comptées à partir du Yovel, qui est l'année du jubilé, une fois tous les 50 ans. Donc les années étaient comptées par 7 groupes de 7, la 7e année étant l'année de la Shemitah, la 50e année était l'année du Yovel, puis le compte recommençait. Alors la question était, pour situer l'année, quel groupe de 7 ans s'est passé ce crime? Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième, etc., ou le 7e groupe de 7 ans? Deuxième question, Be'ezou Shana, quelle année du groupe de 7 ans en question s'est passé ce crime? Troisième question, Be'ezou Chodesh, quel mois s'est passé ce crime? Quatrième question, Be'kama Bachodesh, quel jour du mois s'est passé ce crime? Cinquième question, Be'ezé Yom, quel jour de la semaine s'est passé ce crime? Sixième question, Be'ezé Sha'a, à quelle heure s'est passé ce crime? Septième question, Be'ezé Makom, à quel endroit s'est passé ce crime? Rabbi Yossi Omer, ce ne sont pas 7 questions qui seront posées, mais 3 questions seulement. La Gemara expliquera pourquoi. En la première question, Be'ezé Yom, quel jour de la semaine s'est passé ce crime? Be'ezé Sha'a, à quelle heure s'est passé ce crime? Be'ezé Makom, à quel endroit s'est passé ce crime? Alors, les questions qui suivent ne font pas partie des questions que la Mishnah appelle Chakirot, parce qu'elles permettent éventuellement de contredire les témoins, mais plutôt, comme l'explique le Rashash, ce sont des questions qui permettent de déterminer la nature du crime. Par conséquent, si les témoins ne répondent pas clairement à ces questions, leur témoignage sera refusé. Alors, première question, Makiri Matemoto, est-ce que vous connaissez la victime? C'est-à-dire, est-ce que vous savez si cette victime qui a été assassinée était Israël ou est-ce qu'il était Goy? Autre question, Hitre Tembo, l'avez-vous averti? C'est-à-dire, est-ce que vous l'avez mis en garde que s'il commet ce crime, il sera condamné à mort? Ha'oved Avodazara, s'il s'agit d'un cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie, les membres du tribunal vont poser les questions suivantes. Etmi Avad, quelle idole a-t-il servi? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de Marcoulis, par exemple, ou de Peor? Ou Bame Avad, comment a-t-il servi cette idole? Lui a-t-il sacrifié un animal? Ou s'est-il prosterné devant elle? Kol Hamarbe Bibdikot, tout celui qui multiplie les vérifications en posant différentes questions aux témoins pour déterminer plus exactement la nature du crime, Hareze Meshubach, c'est une action louable, parce que ces questions vont permettre de confondre les témoins s'ils se contredisent. Cependant, comme nous le verrons plus loin dans la Mishnah, ces témoignages seront acceptés, même s'ils ne savent pas répondre à ces questions. Maase ou Badak Ben Zakai Be'ukze Te'enim. Il y a une histoire où Ben Zakai a vérifié les témoignages en posant des questions aux témoins sur la taille des queues des figues produites par le figuier sous lequel s'est passé ce crime. Alors, la Mishnah demande « Ma ben chakirot lebdikot » quelle différence y a-t-il entre les questions que nous appelons chakirot et les questions que nous appelons bdikot, vérification des témoignages. La Mishnah répond, Chakirot, les 7 premières questions que nous avons vues plus haut concernant la date et le lieu du crime, et Chad Omer Eniodea, si l'un des témoins dit, je ne connais pas la réponse à cette question, Edutan Betela, leur témoignage est annulé, puisque sans ces données, ce témoignage ne peut pas être contredit. Bdikot, mais dans le cas d'autres questions qui permettent simplement de préciser plus exactement la nature du crime, Echad Omer Eniodea, si l'un des témoins dit « Je ne connais pas la réponse à cette question », va filu shnaim omrim enanu yodim, même si les deux témoins disent « Nous ne connaissons pas la réponse à cette question », edutan kayemet, leur témoignage est valable, il sera accepté. Cependant, Echad Chakirot, soit dans le cas de questions qui définissent la date et le lieu du crime, vechad bdikot, et soit dans le cas de questions qui permettent de définir plus exactement la nature du crime, bisman shemakrishin zeetze, dans le cas où les deux témoins se contredisent, edutan betela, leur témoignage est annulé. Echad omer beshnaim bachodesh, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé le second du mois, vechad omer beshlosha bachodesh, et l'autre témoin dit que ce crime s'est passé le troisième jour du mois, edutan kayemet, leur témoignage est valable. Et cela parce que nous estimons que chez Zeyodea Beiburo Shel Chodesh, celui qui a dit que le crime s'est passé le second du mois savait que ce mois a été allongé d'un jour par le tribunal et que ce mois en question était un mois de 30 jours. Veze et Noyodea Beiburo Shel Chodesh, alors que le second ne savait pas que le tribunal avait allongé ce mois d'un jour et il croyait donc que c'était le troisième jour du mois. Comme le précise le Tosfot qui est imprimé plus loin d'Af Memalef Amudvet, il s'agit d'un cas où ces deux témoins ont dit que le crime s'est passé le même jour de la semaine. Forcément donc, leur témoignage concorde, et l'un d'eux s'est trompé sur la date du jour. En revanche, Ze Omer Bishlosha Vechad Omer Bechamisha, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé le troisième jour du mois, et l'autre dit que le crime s'est passé le 5 du mois, Edutan Betela, leur témoignage est annulé, parce que l'on ne peut plus dire que l'un des témoins s'est trompé sur la date du jour, ces témoignages se contredisent. Echad Omer Beshte Shaot, Vechad Omer Beshalosh Shaot, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé à la deuxième heure du jour, et le deuxième dit que le crime s'est passé à la troisième heure du jour, Edutan Kayemet, leur témoignage est valable, parce que nous estimons que l'un des témoins s'est trompé sur l'estimation de l'heure de la journée. Par contre, Echad Omer Beshalosh, Vechad Omer Bechamesh, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé la troisième heure de la journée, et le second dit que le crime s'est passé la cinquième heure de la journée, et d'Utan Betela, leur témoignage est annulé parce qu'ils se contredisent. Rabbi Yehuda Omer, Kayemet, leur témoignage est valable parce qu'il se peut qu'une personne se trompe même de deux heures. Par contre, Echad Omer Bechamesh, Vechad Omer Becheva, si l'un des témoins dit que le crime s'est passé la cinquième heure de la journée, donc avant midi, et l'autre dit que le crime s'est passé à la septième heure de la journée, donc après-midi, Edutan Betela, leur témoignage est annulé parce qu'ils se contredisent. Chez Bechamesh, Chama Bemizrach, parce qu'à la cinquième heure, le soleil est encore à l'est. Ou Becheva Chama Bemaharav, alors qu'à la septième heure, le soleil se trouve déjà à l'ouest. Ils n'ont pas pu se tromper. Nous dirons donc que leur témoignage se contredise et il sera annulé. Après avoir interrogé le premier témoin, Vachakar Machnissin et Tacheni, et après cela, le tribunal fait rentrer le second témoin, Ubodkin Oto, et on l'interroge. C'est-à-dire, en fait, ces deux témoins sont interrogés séparément. Im nimtsehu divrehem mechubanim, si leurs paroles concordent, c'est-à-dire si leur témoignage concorde, leur témoignage est accepté. Le tribunal passera donc à la phase suivante, qui est celle des délibérations. Potrin bizrut. Le tribunal ouvrira cette phase de délibération par une phrase en faveur de l'accusé. C'est-à-dire, comme l'Agmara l'a expliqué plus haut d'Aflamet Bet Amud Bet, on dira à l'accusé, si tu n'es pas coupable, tu n'as rien à craindre. L'Agmara plus haut d'Aflamet Bet Amud Bet l'apprend à Pasuk. Amar Echad Min Ha'edim, si l'un des témoins dit par la suite, Yeshti Lamed Alav Zchut, j'ai quelque chose à dire en faveur de l'accusé pour l'acquitter, O Echad Min Atalmidim, ou bien si l'un des élèves qui siège au tribunal dit, Yeshti Lamed Alav Chova, j'ai quelque chose à dire pour le rendre coupable, Meshatkinoto, on le fait taire. Et cela parce que, comme la Gemara l'explique plus haut, Daf Lamed Dalet, on n'acceptera pas les paroles d'un témoin s'ils viennent acquitter l'accusé pendant les délibérations du tribunal, parce que nous craignons qu'ils parlent par intérêt. En effet, il se peut qu'ils ont intérêt à ce que l'accusé soit acquitté pour ne pas qu'il soit puni s'ils sont contredits par la suite. La Gemara explique là-bas aussi qu'on n'accepte pas les paroles d'une personne qui n'est pas membre du tribunal si ces paroles viennent le condamner. Amar echad min atalmidim. Cependant, si l'un des élèves dit « Yeshli lamed alav zchut, j'ai quelque chose à dire en faveur de l'accusé pour l'acquitter, ma'alin oto, on l'élève, parce qu'en fait, ses élèves étaient assis par terre, donc on l'élève, ou moshivin oto benehem, on le fait asseoir parmi eux, donc parmi les membres du tribunal. Velo haya yored misham kolayom kulo, et il ne descendait pas de là-bas toute la journée. La Gemara expliquera. Imiesh mamash bidvarav, si ses paroles sont cohérentes, shomimlo, on l'écoute, autrement dit, on tiendra compte de ses paroles pour éventuellement acquitter l'accusé. Va filou hu omer, même si l'accusé dit lui-même, yesh kli lelamed alat mizrut, j'ai quelque chose à dire en ma faveur pour qu'on m'acquitte, shomimlo, on l'écoute, ou bilvad shiesh mamash bidvarav, mais à condition que ses paroles soient cohérentes, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose de suffisamment valable qui puisse permettre de l'acquitter. Ve'im mat'u lozrut, si le tribunal ou la majorité de ses membres a trouvé suffisamment de raisons pour l'acquitter, patrohu, le tribunal libère l'accusé, autrement dit, il l'acquitte. Ve'im lav, et sinon, il ne le condamne pas tout de suite, mais ma'avirin oto le machar, il repousse le verdict au lendemain. Umizdavgin zugot zugot, et jusqu'au lendemain, les membres du tribunal se mettent par groupe de deux pour discuter cette affaire. Hayu mema'atin mima'achal, et ils diminuaient leur nourriture, c'est-à-dire ils mangeaient peu. Velo hayu shotin yain kolayom, et ils ne buvaient pas de vin toute la journée. Venosin venotnin kolalaila, et ils délibèrent ainsi toute la nuit. C'est-à-dire, même après que chacun des membres du tribunal rentrait chez lui, ils continuaient chacun de son côté à étudier cette affaire, et ce toute la nuit, avec l'espoir de l'acquitter. Ou le macharat, et le lendemain matin, mashkimin uvain le beddin, ils se dépêchaient de venir au tribunal, c'est-à-dire ils se réunissaient très tôt. Hamezake, celui qui avait donné des raisons pour l'acquitter, au maire devait dire, ani mezake, hier j'acquittais l'accusé, ou mezake ani bimkomi, et je pense toujours qu'il est quitte. Vehamechayev au maire, et celui qui pensait qu'il était coupable, qu'il devait être condamné, disait, ani mechayev, je le rendais coupable hier, ou mechayev ani bimkomi, et je pense toujours qu'il est coupable. Cependant, la Mishnah précise, Hamelamed Chova, celui qui pense que l'accusé est coupable, Melamed Zrut, peut changer d'avis et dire quelque chose en faveur de l'accusé pour l'acquitter. Aval Hamelamed Zrut, mais celui qui dit quelque chose pour acquitter l'accusé, et Noyachol Larzor ou le Lamed Chova, il ne peut pas changer d'avis et dire quelque chose pour le rendre coupable, et ce pendant toute la phase des délibérations. Par conséquent, celui qui l'avait acquitté la veille n'avait d'autre choix que de dire qu'il l'acquittait toujours. Taouba Davar, si l'un des juges s'est trompé en donnant un avis autre que celui qu'il avait donné la veille, Shne Sofre Adayanin Mazkirin Oto, les deux greffiers qui avaient écrit la veille les avis de tous les juges lui rappelaient son avis. Imatz Ulozhut, si finalement les juges ont trouvé des raisons pour l'acquitter à ce stade, Patrouhu, on le libérait et donc on l'acquittait. Ve'imlav, et sinon, omdim leminyan, les juges procédaient à un vote. Shnem asar mezakin, s'il y a 12 juges qui l'acquittent, ve'chad asar mechayvin, et il y en a 11 qui le condamnent, zakai, l'accusé est acquitté. Shnem asar mechayvin, si 12 des juges le condamnent, ve'chad asar mezakin, et les 11 autres juges l'acquittent, il est vrai que dans ce cas, la majorité du tribunal le condamne, mais comme nous l'avons appris, plus haut dans la Mishnah d'Avbet, il faut impérativement une majorité de deux juges pour condamner à mort un accusé. Dans ce cas, nous avons une majorité d'un seul juge, il est donc impossible de le condamner à mort. Alors la Mishnah continue, « Vafilo echad asar mezakin ve'echad asar mechayvin » même s'il y en a 11 qui l'acquittent et 11 qui le condamnent, « ve'echad omer eni yodea » et l'un des juges dit « je ne sais pas », il manque donc un 23e avis, « Vafilo esrim mechnaim mezakin omechayvin » même si 22 juges l'acquitte ou le condamne, vechadomer en yodea, et le dernier juge dit, je ne sais pas s'il est quitte ou s'il est coupable. Il manque donc le 23e avis. Le jugement ne pourra pas être rendu, parce qu'il se peut que s'il y avait un 23e avis, celui-ci serait arrivé à convaincre tous les autres juges. Par conséquent, yosifu hadayanim, les juges ajouteront des membres. Vekama mosifin, et combien de membres on ajoute dans une situation où le jugement ne peut pas être rendu? La Mishnah répond, shnaim shnaim, on ajoute deux par deux, ad shivim ve'echad, jusqu'à ce qu'il soit 71. Donc à chaque fois, ils délibéreront à nouveau. Il se peut que les deux nouveaux juges arrivent à trancher la situation. Sinon, on ajoutera encore deux membres, etc., jusqu'à 71. Arrivé à ce nombre, shloshim ve'shisha mezakin, s'il y en a 36 qui l'acquittent, ou shloshim ve'chamisha mechayvin, et 35 le condamnent, zakai, l'accusé quitte. Shloshim ve'shisha mechayvin, s'il y en a 36 qui le condamnent, ou shloshim ve'chamisha mezakin, et 35 qui l'acquittent. Comme nous l'avons expliqué plus haut, il est impossible de le condamner, parce qu'il n'y a pas une majorité d'au moins deux juges. Danin elu kenegedelu, il continue à délibérer et à essayer de convaincre l'un l'autre, jusqu'à ce que l'un de ceux qui condamnait l'accusé soit convaincu par ceux qui l'acquittent. En fait, comme l'Agmara l'a dit plus haut d'Aflamet Dalet, puisque nous sommes maintenant dans la phase finale du jugement, le juge dont l'avis était d'acquitter l'accusé avait le droit de changer d'avis et de le condamner. Cependant, la Mishnah préférait choisir le cas où l'accusé était acquitté. Nous avons vu au début de la Mishnah que pour accepter un témoignage, il faudra que le tribunal pose au témoin sept questions qui permettront de définir la date et le lieu du crime. Or, la Gemara demande, Menahen Emile, d'où sait-on ces choses qu'il faut poser sept questions au témoin? La Gemara répond, Amar Rav Yehuda, Deamarkra, parce que le pasuk dit dans Dvarim Yud Gimel, concernant le cas d'une ville qui a été entraînée à commettre l'idolâtrie, Vedarashta, Vechakarta, Vechaalta, Hetev, et tu rechercheras, tu enquêteras, et tu questionneras bien. De ce pasouk, nous voyons qu'il faut poser au moins trois questions aux témoins. En effet, du terme Vedarashta, nous apprenons qu'il faut poser une question. Du terme Vechakarta, nous apprenons qu'il faudra poser une deuxième question. Et du terme Hetev, bien, nous apprendrons qu'il faudra poser une troisième question. Nous préciserons que lorsque le pasouk dit simplement « Vesha'alta », tu questionneras, nous n'apprenons pas d'ici qu'il faut questionner les témoins. « Ve'omer », il y a un autre pasouk dans « Dvarim Yudzain » concernant la personne qui a commis l'idolâtrie, « Ve'hugad lecha ve'shamata », et ce méfait t'a été raconté, et tu l'as entendu, « Ve'darashta etev », et tu rechercheras bien. De ce pasouk, nous apprenons qu'il faut poser deux questions aux témoins. En effet, du terme Vedarashta, nous apprenons qu'il faut poser une question aux témoins. Et du terme de Hetev, nous apprenons qu'il faudra poser une deuxième question. Veomer, et le pasouk dit encore dans Dvarim Yutet, concernant les témoins comploteurs. Il s'agit de témoins qui ont été contredits par d'autres témoins, en disant qu'ils n'ont pas pu voir ce crime à la date et au lieu dit, parce que à cette date, ils étaient avec eux dans un autre endroit éloigné. Le second témoignage est accepté. Nous avons pu donc déterminer que les premiers témoins ont comploté de condamner un innocent. En le pasouk dit, Vedarshu ha-shoftim hetev, et les juges rechercheront bien. En là, nous apprenons de ce pasouk qu'il faudra poser deux questions aux témoins. En effet, du terme Vedarshu, nous apprenons que les juges doivent questionner une fois les témoins. Du terme de hetev, nous apprenons qu'il faudra leur poser une autre question. Au total, nous avons donc sept questions. De là, nous apprenons qu'il faut poser impérativement sept questions aux témoins pour accepter leur témoignage.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Mem Amud Bet. En la Guémara demande, Ve'ema chada chada kediktiva. Peut-être que ces trois cas mentionnés par la Torah sont des cas particuliers, et en fait, pour chacun de ces cas, la Torah a exigé le nombre de questions prescrites par elle. C'est-à-dire, dans le cas de la ville qui a commis l'idolâtrie, il faudra poser trois questions aux témoins. Dans le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie, il faudra poser deux questions aux témoins. Et dans le cas de témoins comploteurs, il faudra poser deux questions aux témoins. Mais en fait, peut-être que la Torah n'a jamais enseigné qu'il fallait poser cette question au témoin. Deimken, parce que si c'est vrai que la Torah exigeait que l'on pose cette question au témoin, l'Irtevinu Rachamana Bechada, la Torah aurait dû écrire ces 7 questions dans un seul des cas, et de là on aurait déduit que dans tous les cas, il faut poser cette question au témoin pour accepter leur témoignage. La Gemara répond, Kivan de Kulhu Beade Hadade Ktiva, puisque ces 3 cas ont été écrits ensemble, c'est-à-dire puisque la même règle, qui est celle de questionner les témoins, ont été écrits dans ces 3 cas, forcément, Mehadade Yalfe, nous pouvons apprendre l'un de l'autre, autrement dit, nous les comparerons, Ve Kivan de Yalfe et Mehadade, puisque nous pouvons apprendre de l'un à l'autre, Keman Dirtiv Bechadadami, c'est comme si la Torah avait écrit dans un seul cas qu'il faut poser cette question aux témoins. En effet, puisque nous comparons ces 3 cas enseignés par la Torah, nous dirons donc que les règles s'appliquant dans l'un des cas s'appliquent aussi dans l'autre cas. Donc le nombre de questions prescrites par la Torah dans l'un des cas est aussi prescrit dans l'autre cas. Nous arrivons donc au total de cette question à poser aux témoins. Or la Gemara demande, comment est-il possible d'apprendre de l'un à l'autre Vehalodam Yale Adade? Pourtant ces 3 cas ne se ressemblent pas. Or la Gemara nous donne un signe pour nous aider à mémoriser les 3 différences. Alors Siman, palette, sauvé, Saïef, épée, Hatra'a, avertissement. Alors la Gemara explique, Irani Dachat, Lehanach Tarte, Lodamia, le cas de la ville qui a été entraînée à commettre l'idolâtrie ne ressemble pas aux 2 autres cas, qui sont le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie et les témoins comploteurs, Sheken, Mamonan, Palet, parce que dans les 2 derniers cas, leur argent est sauvé. C'est-à-dire, même si l'auteur du méfait est puni, son argent restera intact. Alors que, dans le cas des habitants d'une ville qui ont commis l'idolâtrie, non seulement les habitants de la ville seront mis à mort, mais leur argent est voué à la perte. En effet, la ville sera brûlée avec tout ce qu'elle contient. Il se peut donc que pour les 2 derniers cas, nous pouvons les comparer et déduire donc que pour ces cas, il faudra poser cette question au témoin. Mais dans le cas de la ville qui a commis l'idolâtrie, qui est un cas plus grave, il se peut que la Torah n'a exigé que 3 questions pour pouvoir accepter le témoignage en ce sens et de condamner les habitants de cette ville. Donc cette première différence qui est que dans les 2 derniers cas, l'argent est sauvegardé est désignée par le terme de palette que nous avons vu plus haut. Avoda zara lehanach tarte lodamia. Le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie ne ressemble pas aux 2 autres cas qui sont la ville qui a commis l'idolâtrie et les témoins comploteurs Sheken Besayef, parce que dans ces 2 derniers cas, la peine de mort est infligée par le glaive. En effet, les habitants d'une ville qui ont commis l'idolâtrie sont mis à mort par le glaive, et le cas de témoins comploteurs dont parle la Torah est notamment celui de témoins qui ont accusé un innocent d'un meurtre. Ils ont voulu donc le faire mettre à mort par le glaive, et c'est la punition qu'ils recevront aussi. Même s'il peut s'agir aussi d'un cas où la punition est plus grave, mais nous pouvons comprendre que dans ces 2 cas, donc le cas d'une ville qui a commis l'idolâtrie et le cas de témoins comploteurs, la Torah aura été moins stricte, et dans ces cas, les témoignages ne seront pas acceptés si les 7 questions n'ont pas été posées. Par contre, dans le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie et qui est condamnée à la peine de mort par lapidation, il s'agit de la peine de mort la plus grave. Il se peut que ce cas ne sera pas comparé aux autres cas. Nous dirons que dans ce cas, la Torah n'aura exigé que 2 questions qui ont été prescrites par la Torah dans ce cas pour accepter le témoignage. Cette deuxième différence, qui est que dans les 2 derniers cas, le condamné est mis à mort par le glaive, est désigné par le terme de Saïf, que nous avons vu plus haut. Et Dim Zomemin, Lehanar Tarte Lodamia. Le cas de témoin comploteur ne peut pas être comparé aux 2 autres cas qui sont le cas d'une ville qui a commis l'idolâtrie et le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie. Et cela, parce que Sheken Tzirchim Atra, parce que dans ces 2 cas, il faut avertir là où les personnes qui commettent le péché ou l'idolâtrie pour pouvoir les condamner. Il se peut donc que seulement dans ces 2 cas, nous apprenons de l'un à l'autre. Nous apprendrons donc qu'il faudra poser les 7 questions aux témoins pour accepter leur témoignage. Par contre, dans le cas de témoins comploteurs qui sont condamnés à mort, même s'ils n'ont pas été avertis avant leur témoignage, Il se peut que la Torah aura été plus stricte et nous n'apprendrons pas donc ce cas des autres cas, et la Torah donc aura permis d'accepter le témoignage en posant uniquement deux questions qui ont été prescrites par la Torah dans ce cas. Cette dernière différence qui est que dans les deux autres cas, les malfaiteurs doivent être mis en garde pour pouvoir être condamnés et désignés par le terme de Atra'a que nous avons vu plus haut. En conclusion, puisque ces trois cas ne se ressemblent pas comme nous l'avons vu, nous n'avons aucune manière d'apprendre de l'un à l'autre et de déduire ainsi qu'il faut poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage. La Gemara répond « Behetev, hetev, yalfinan me'adade » Nous apprenons de l'un à l'autre par une Xera Shava à partir du terme de Hetev qui est écrit dans les trois cas. La Gemara dit « ou Xera Shava moufne » Nous sommes obligés de dire que les termes que nous avons employés pour cette Xera Shava sont en plus. Ils sont venus donc uniquement pour cette Xera Shava de Ilo moufne, parce que si ces termes ne sont pas en plus, ne sont pas libres, Ikale mes frères, nous pouvons réfuter cet enseignement. En effet, puisque ces termes ne sont pas en plus, et d'autre part nous avons vu plus haut les différences entre les trois cas, nous pouvons donc réfuter cet enseignement, et nous ne pourrons pas déduire de l'un à l'autre. Or là est moufne, comment est-ce que nous voyons que ces termes sont en plus, puisque de ces termes de Hetev, nous apprenons de là qu'il faut poser une question supplémentaire aux témoins, puisque c'est de là que nous sommes arrivés au compte de cette question qu'il faut poser aux témoins. La Gemara répond, Moufne, ces termes sont en plus. Si c'était simplement pour arriver au compte de cette question, le pasouk aurait dû s'exprimer différemment en disant, et ils rechercheront et ils enquêteront. Et le pasouk a changé son expression en utilisant le terme de hetev à trois reprises. Shma mina, nous pouvons déduire de là leafnouye que ces termes sont en plus pour apprendre cette gzera shava. La Gemara demande veakate mufne mitzadechadu. Ces termes sont en plus que d'un côté, c'est-à-dire le principe de gzera shava est appliqué en utilisant deux termes qui sont écrits dans deux sujets différents, ce qui nous permet de les comparer et nous apprenons donc de l'un à l'autre. Alors là, nous avons ce terme qui est libre que d'un côté et non pas de l'autre. Cet enseignement, donc cette Gzera Shava, pourrait être réfuté. La Gemara précise, Bishlama Hanar Tarte. On comprend bien encore ces deux cas, c'est-à-dire le cas d'une personne qui a commis l'idolâtrie et le cas de témoins comploteurs. Mufnehu, les termes de Hetev sont en plus. Mishum Dehavale le Mirtav, puisque le Pasuk aurait dû écrire, et ils rechercheront et ils enquêteront. Il n'aurait pas dû employer le terme de Hetev. Et là, Irhanidachat, mais dans le cas de la ville qui a commis l'idolâtrie, Mai Havale le Mirtav, qu'est-ce que le Pasuk aurait pu écrire? Haktiva Kulhu, voici que le Pasuk a déjà écrit, donc a employé déjà tous ces termes. En effet, le Pasuk dit Vedarashta Vechakarta Veshaalta Hetev, et tu rechercheras, tu enquêteras, et tu questionneras bien. Donc puisque le Pasuk a déjà employé le terme de Vedarashta Vechakarta, le Pasuk n'avait pas d'autre choix que d'employer le terme de Hetev. Finalement, à partir du terme de Hetev qui a été écrit dans le cas d'une ville qui a commis l'idolâtrie, on ne pourra pas faire de Gzera Shava. La Gemara répond Hatanami Afnuye Mufne. Là-bas aussi le terme de Hetev est en plus. Mida Valé le Mirtav Darosh Tidrosh, puisque le Pasuk aurait pu écrire Chercher, tu rechercheras, au Hakor Tarkor, ou bien enquêter, tu enquêteras. Veshanekra Bedibure Behetev, et le Pasuk s'est exprimé différemment en employant le terme de Hetev, comme dans les autres cas, Shma Mina Lafnouye, cela vient nous apprendre que ces termes sont en plus, et nous ferons cette Gzera Shava de laquelle nous apprendrons qu'il faudra poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage. Alors maintenant que nous avons appris de ces trois cas réunis qui ont été mentionnés par la Torah, qu'il faut poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage, cette loi sera étendue à tout jugement où il est question de condamner une personne à mort. Alors nous avons vu un cas d'une personne condamnée à mort par la lapidation. En effet, la Torah parle d'une personne qui a commis l'idolâtrie et qui est condamnée à mourir par lapidation. Nous apprendrons de là donc que pour tout jugement où il est question de condamner une personne à mort par lapidation, il faudra poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage. Nous avons vu un autre cas où il est question de condamner une personne à mort par l'épée. En effet, nous avons vu le cas d'une ville qui a été entraînée à commettre l'idolâtrie. Les habitants de cette ville sont condamnés à mourir par l'épée. Nous apprendrons de là donc que pour tout jugement où il est question de condamner une personne à mourir par l'épée, il faudra poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage. Reste à savoir d'où est-ce que nous savons que pour un jugement où il est question de condamner une personne à mort par le brûlement interne ou par la strangulation, il faut aussi poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage. Alors la Gemara répond, Ve'atu nechnakin. Et nous apprendrons que pour un jugement où il est question de condamner à mort une personne par strangulation, qu'il faut donc poser cette question aux témoins pour accepter leur témoignage, Bekal Vachomer, en appliquant un raisonnement a fortiori, Miniskalin ou Minéragin, à partir de ceux qui sont condamnés à mort par la lapidation et par ceux qui sont condamnés à mort par l'épée. En effet, la Gemara comprend ici, comme nous le verrons plus loin au début du 7e Pérec, Daf Memtet Amud Bet, que la peine de la strangulation est la peine la moins grave. Donc si nous voyons que la Torah exige que l'on pose cette question pour accepter le témoignage des témoins lorsqu'il est question de condamner une personne à mort par la lapidation ou par l'épée, qui sont considérées comme étant des peines graves, à plus forte raison que la Torah exigera cette enquête pour accepter un témoignage lorsqu'il est question de condamner une personne à mort par strangulation. Ve'atu nisrafin, et nous apprendrons que lorsqu'il est question de condamner une personne à mort par le brûlement interne, il faudra aussi poser les sept questions aux témoins pour accepter leur témoignage, Bekal Bachomer, Miniskalim, en appliquant un raisonnement a fortiori à partir de ceux qui sont condamnés à mort par la lapidation. En effet, nous voyons plus loin, au début du 7e Pérec d'Af Memtet Amud Bet, que la peine du brûlement interne est plus grave que la peine de mort par l'épée. Cependant, cette peine est moins grave que la peine de mort par lapidation. Nous pourrons donc quand même appliquer ce raisonnement à partir de ceux qui sont condamnés à mort par la lapidation. Parce que si déjà, lorsqu'il est question de condamner une personne à mort par la lapidation, la Torah exige que l'on pose cette question aux témoins pour accepter leur témoignage, bien que cette personne ait transgressé une interdiction suffisamment grave pour être condamnée à la peine la plus grave, à plus forte raison que la Torah exigera cette même enquête dans le cas d'une personne qui a commis une faute moins grave, et il est donc question de la condamner à une peine moins grave qui est celle du brûlement interne. Alors la Gemara demande, Hanicha, les Rabbanan, de Amre Skila Hamura, on peut bien comprendre ce raisonnement selon les Chachamim qui tiennent plus loin d'Af Memtet Amud Bet que la peine de la lapidation est la peine la plus grave. Et là, le Rabbi Shimon de Hamas Refa Hamura, mais selon l'opinion de Rabbi Shimon qui dit là-bas, dans cette même Mishnah, que la peine du brûlement interne est plus grave que celle de la lapidation, Maïka le Memar, que pourrons-nous dire? On ne pourra pas appliquer le raisonnement a fortiori. Et nous nous posons donc la question, d'où est-ce que nous savons que lorsqu'il est question de condamner une personne au brûlement interne, qu'il faut aussi poser les sept questions aux témoins pour accepter leur témoignage? L'Agma répond, et là, Amar Rabbi Yehuda. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit, le Passouk dit à deux reprises, une fois concernant les habitants d'une ville qui ont été entraînés à commettre l'idolâtrie dans Dvarim Yud Gimel, et une fois dans Dvarim Yud Zayin concernant la personne qui a commis l'idolâtrie, Vehine emet nachon, vehine emet nachon. Et après que le tribunal a enquêté, et voici qu'il s'avère que la chose est juste et vraie. Du terme de emet, nous pouvons déduire que le tribunal doit interroger les témoins. Du terme de nachon, nous déduisons aussi que le tribunal doit interroger les témoins. Finalement, nous avons quatre termes supplémentaires qui nous apprennent que le tribunal doit interroger les témoins. Ha chatzare, en tout, nous avons donc 11 termes qui nous apprennent qu'il faut interroger les témoins. Alors nous dirons que Sheva, 7 termes seront employés, les Sheva Hakirot, pour nous enseigner qu'il faut poser 7 questions aux témoins. Dal Tlat l'Exera Shava, nous en prendrons 3 pour former l'Exera Shava que nous avons mentionné plus haut qui permet de lier ces 3 cas. Cette Exera Shava sera faite à partir du terme de Hetev, comme nous l'avons vu plus haut, et qui est mentionné dans les 3 cas. Pasha Lehu Chada, il en reste donc un supplémentaire. Les Rabbi Shimon, selon l'opinion de Rabbi Shimon, les Atouye Nisrafim, cela viendra inclure ceux qui sont condamnés au brûlement interne. Nous apprendrons donc de là que lorsqu'il est question de condamner une personne au brûlement interne, il faudra aussi poser les 7 questions aux témoins pour accepter leur témoignage. Les Rabbanan, selon l'opinion de Chachamim, nous n'avons pas besoin de ce terme parce que comme nous l'avons vu plus haut, selon les Chachamim, nous pouvons appliquer le raisonnement a fortiori pour déduire que lorsqu'il est question de condamner une personne au brûlement interne, il faut poser les 7 questions aux témoins pour accepter leur témoignage. Quand même, nous dirons que Milta de Atia Bekal Vachomer, une chose que nous pouvons déduire par un raisonnement a fortiori, Tarach Vekatav Lachkra, le pasouk s'est quand même efforcé de l'écrire. Donc finalement, ce dernier terme n'est pas en plus. Megadev ba Rabbi Avahu. Rabbi Avahu a maudit celui qui a donné cette interprétation. Autrement dit, il s'est exclamé là-dessus. Ema le atouye shmone hakirot. Peut-être que selon les Chachamim, nous dirons que le terme supplémentaire viendra nous inclure, donc nous apprendre qu'il faut poser 8 questions aux témoins pour accepter leur témoignage. Alors la Gemara demande, Ushmone Hakirot Mika, existe-t-il 8 questions que nous pouvons poser aux témoins? Alors qu'avec les 7 questions présentées par la Mishnah, nous avons pu déterminer exactement la date et le lieu du crime. La Gemara demande, Alamalo, pourquoi pas? Vehaika Leatouye Bekama Besha'a. Nous pouvons inclure, donc ajouter une question supplémentaire qui sera à combien de l'heure a été commis ce crime? Est-ce que c'était au quart de l'heure ou à la moitié de l'heure, etc.? Vetanya Namiachi, et effectivement il a été enseigné ainsi aussi dans une braïta, Hayubodkinoto Veshmone Hakirot, on vérifiait les témoignages en posant 8 questions aux témoins. Alors l'Agma répond, Hanicha le Abaye, nous pouvons comprendre que nous pouvons poser 8 questions aux témoins seulement selon l'opinion d'Abaye, Aliba de Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir, qui est le premier auteur de la Mishnah. En effet, donc, le premier auteur de la Mishnah, qui est Rabbi Meir, dit que si l'un des témoins dit que le crime s'est passé à la deuxième heure, et le second témoin dit que le crime s'est passé à la troisième heure, nous considérons que leurs témoignages ne se contredisent pas. Alors Abaye a expliqué cela en disant, Dehamar qui dit, « En adam to'e veloklum » En fait, une personne ne se trompe pas. Et en fait, nous estimons que le crime s'est passé à la fin de la seconde heure, donc au début de la troisième heure. Et l'un des témoins appelle ce moment la deuxième heure, alors que le second témoin appelle ce moment la troisième heure. Ou lehach lishna nami de amar. Et selon la deuxième version qui dit que selon Abaye, qui interprète les paroles de Rabbi Meir, Adam toé machu, une personne peut se tromper un petit peu. Et en fait, nous estimons que le crime s'est passé soit à la fin de la deuxième heure, soit au début de la troisième heure. Et c'est pour ça donc que l'un des témoins dit que le crime s'est passé à la deuxième heure, donc à la fin de la deuxième heure, et l'autre dit que le crime s'est passé à la troisième heure, en fait au début de la troisième heure. C'est pour cela donc que nous considérons qu'ils ne se contredisent pas. Shapir, c'est bien, c'est-à-dire puisque nous voyons, selon Abaye, que les témoins sont capables même d'estimer à combien de l'heure s'est passé le crime, puisqu'ils peuvent dire exactement si ce crime s'est passé à la fin de la deuxième heure ou au début de la troisième heure, nous pouvons donc comprendre qu'on puisse poser une 8e question au témoin. Et là, le Abaye Aliba de Rabbi Yehuda, mais selon Abaye qui explique l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, qui dit que même si l'un des témoins dit que le crime s'est passé à la troisième heure et l'autre dit que le crime s'est passé à la cinquième heure, leur témoignage sera accepté parce que nous considérons qu'ils ne se contredisent pas. De Amar, qui dit donc, Abaye dit pour expliquer l'opinion de Rabbi Yehuda, Adam Toé Hatzisha, une personne peut se tromper d'une demi-heure. Selon Rabbi Yehuda, nous estimons que le crime s'est passé au milieu de la quatrième heure, et l'un des témoins s'est trompé d'une demi-heure et estime que le crime s'est passé à la fin de la troisième heure, et l'autre témoin s'est trompé d'une demi-heure et a estimé que le crime s'est passé au début de la cinquième heure. C'est pour cela donc que nous estimons qu'ils parlent du même moment, leurs témoignages ne se contredisent pas, qu'ils seront donc acceptés. Ou le Rava de Amar, et selon Rava qui dit que nous ne pouvons pas interpréter ainsi cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, mais au contraire, Taou Inche Tuva, que les gens peuvent se tromper de beaucoup. En effet, selon Rabbi Meir, Rava estime qu'une personne peut se tromper de 2 heures. Il se peut donc que l'un témoigne que le crime s'est passé au début de la deuxième heure et l'autre témoigne que le crime s'est passé à la fin de la troisième heure, et quand même ils pensent au même moment et leur témoignage sera accepté. Alors que selon Rabbi Yehuda, une personne peut se tromper de 3 heures. Et donc l'un des témoins a pensé que le crime s'est passé au début de la troisième heure, et l'autre a pensé que le crime s'est passé à la fin de la cinquième heure. Et quand même nous dirons qu'ils pensent au même moment, leur témoignage sera accepté. Cette discussion entre Abaye et Rava est expliquée longuement dans Psachim Daf Yudalef. En tout cas, selon eux, puisqu'une personne peut se tromper de beaucoup, il est impossible de demander au témoin de préciser à combien de l'heure s'est passé le crime, puisque de toute façon, nous estimons qu'ils ne peuvent pas estimer l'heure exactement. Alors, Maïka le Mémar, que pourrons-nous dire? Nous n'avons aucune question supplémentaire à poser au témoin. Forcément, nous dirons que le terme supplémentaire nous aura enseigné quelque chose que nous aurions pu déduire par un raisonnement a fortiori. Finalement, nous ne comprenons pas la question de Rabbi Avahu. L'agma répond, « Ela latouye bekama biyovel. » Plutôt, nous dirons que ce pasouk vient inclure une question supplémentaire qui sera « À combien du yovel s'est passé ce crime ?» C'est-à-dire, nous savons que le yovel est un groupe de 50 ans, donc nous leur posons la question « À quelle année du yovel s'est passé ce crime ?» L'agma demande, « Cette question est inutile parce que « Haynu be'ezé shavua » Cette question revient au même à la première question que nous leur posons, qui est enseignée dans la Mishnah. Quel groupe de 7 ans s'est passé ce crime? En posant cette question et la question suivante, quelle année s'est passé ce crime? Nous pouvons déterminer quelle année du Yovel s'est passé ce crime. Puisque le compte est simple, cela ne ressemble pas à la question que nous posons aussi, à quel jour de la semaine s'est passé ce crime, alors que nous savons déjà la réponse à cette question lorsqu'ils ont répondu, quel jour du mois s'est passé ce crime? Parce que là, le lien n'est pas toujours évident. Comme le précise le Rashi dans la Mishnah, il se peut que des témoins qui veulent éventuellement contredire ces témoins savent qu'ils étaient ailleurs avec ces témoins tel jour de la semaine, mais ne se rappellent pas quel jour du mois ils se sont promenés avec eux. En l'agma répond, « Ela latouye be'ezé yovel. » Plutôt, ce terme supplémentaire viendra inclure une question supplémentaire qui sera « Quel yovel s'est passé ce crime ?» Autrement dit, est-ce que ce crime s'est passé pendant cette période du Yovel où nous nous trouvons, ou bien est-ce que ce crime s'est passé dans le Yovel précédent, donc 50 ans auparavant? Alagmar a dit, Veidar et l'autre, qui pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires à poser aux témoins, et il a donc conclu que le Passouk nous enseigne quelque chose que nous aurions pu déduire par un raisonnement a fortiori, c'est parce que, Kivan de Amar Beze Shavua, une fois que les témoins ont dit quel groupe de 7 ans s'est passé ce crime, l'Obae Beze Yovel, il n'est pas nécessaire de poser la question quel Yovel s'est passé ce crime. Parce qu'en général, les témoins n'attendent pas tellement longtemps pour témoigner, il n'y a donc pas lieu de craindre qu'ils parlent d'un crime qui s'est passé plus de 50 ans auparavant. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Yossi Omer, on ne pose pas 7 questions aux témoins, mais seulement 3. Quel jour, quelle heure et quel endroit? Alors, la Gemara dit là-dessus, Tanya, il a été enseigné dans une braïta, Amar lahem Rabbi Yossi le Chachamim. Rabbi Yossi a posé la question suivante au Chachamim, les divrechem, selon vous, mi sheba ve amar emesh hargo, celui qui vient témoigner devant le tribunal en disant, l'assassin l'a tué hier. Omer lo be'ezu shavua, be'ezu shana, be'ezu chodesh, be'kama v'chodesh, doit-on lui poser la question, quel septaine d'année, quelle année, quel mois, et le combien du mois? Ces questions sont inutiles. Puisqu'en disant que le crime a eu lieu hier, nous pouvons situer la date. Finalement, ces questions ne peuvent pas être indispensables. Amroulo, les Chachamim lui ont répondu, le Dvarecha, selon tes paroles, qu'il faut au moins lui demander quel jour. Mi sheba v'amar achshav argo. Celui qui vient témoigner devant le tribunal en disant, l'assassin l'a tué maintenant. Omer lo be'ezeyom be'ezecha be'ezemakom. Doit-on lui poser la question, quel jour, quelle heure et quel endroit? Autrement dit, même ces 3 questions ne sont pas indispensables, parce que si le témoin vient dire que le crime vient de se passer, nous savons même quel jour et à quelle heure s'est passé ce crime. Et là, forcément nous devons dire, Afalgav de l'Otsarir, même si ces questions ne sont pas nécessaires, Raminanale, on lui pose quand même ces questions que de Rabbi Shimon ben Elazar, comme l'a enseigné Rabbi Shimon ben Elazar. En effet, Rabbi Shimon ben Elazar dit dans une braïta qui a été rapportée plus haut d'Aflamet Bet Amud Bet, qu'avant d'écouter le témoignage des témoins, les membres du tribunal les font passer d'une chambre à l'autre pour décourager les menteurs. Alors là aussi, nous dirons, selon l'opinion de Rabbi aussi, que nous poserons quand même ces 3 questions aux témoins, même si leur réponse est évidente, pour les embrouiller et décourager d'éventuels menteurs. Hachanami, alors nous aussi nous pourrons dire, Afalgav de l'Otsarir, même si ces 7 questions ne sont pas nécessaires, Raminanale, on les posera quand même aux témoins que de Rabbi Shimon ben Elazar, comme l'a enseigné Rabbi Shimon ben Elazar, comme nous venons de l'expliquer. Alors finalement, on ne voit pas ce que reproche Rabbi Yossi au Chachamim. Alagma répond, « Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi te dirait, « Emesh hargo shriach berovedouyot, un cas où un témoin se présente pour témoigner que l'assassin l'a tué hier, donc que le crime s'est passé hier, est un cas courant qui peut se présenter dans la majorité des témoignages. Et c'est pour cela qu'il faudra prendre en ligne de compte cette possibilité et ne pas exiger les 7 questions si elles sont inutiles. Achshav Hargo, Mais un cas où un témoin se présente pour dire que l'assassin l'a tué maintenant, donc que le crime vient de se passer, lo shriach berov eduyot, n'est pas un cas courant dans la majorité des témoignages. Autrement dit, ce n'est pas un cas qui se présente couramment. Et c'est pour cela que nous pourrons dire que pour un cas pareil qui est une exception, les trois questions sont quand même indispensables. Alors que dans la plupart des cas, les sept questions ne sont pas indispensables. Nous avons fini ici le shiur de Sanhedrin Daf Mem. Nous commençons le shiur de Sanhedrin Daf Mem Aleph. Nous commençons Daf Mem Amud Bet à la sixième ligne du bas de la page aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit qu'à part les sept questions que l'on pose au témoin pour permettre de situer la date et le lieu du crime, le tribunal posait aussi la question suivante, Makiri Matemoto, avez-vous connu la victime? Alors la Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan, les Chachamim ont enseigné dans une braïta, Makiri Matemoto, connaissez-vous la victime? C'est-à-dire, Nochri Arag, Israël Arag. Est-ce que l'assassin a tué un non-juif ou a-t-il tué un juif? Parce qu'il n'est condamné à mort que s'il a tué un Israël. Autre question, Hitre Tembo, l'avez-vous averti que s'il commettait ce crime, il serait condamné à mort? Autre question, Kibel Alavatra, a-t-il accepté l'avertissement? Autre question, Hitir Atzmo Lemita, a-t-il clairement accepté de mourir s'il commettait ce crime? Parce que s'il ne l'a pas fait, il ne sera pas condamné à mort. Autre question, Hemit Betor Kededibour, a-t-il tué immédiatement après l'avertissement, avant que ne s'écoule le temps de prononcer une phrase qui est celle de saluer son maître? Sinon, il se peut qu'il ait oublié l'avertissement. Ha'oved Avodazara, s'il s'agissait d'une personne qui a commis l'idolâtrie, alors le tribunal posait les questions suivantes. Etmi Avad, qui a-t-il servi? Autrement dit, quelle idole a-t-il servi? Lif'or Avad, le Marcoulis Avad, a-t-il servi l'idole appelée Peor ou a-t-il servi l'idole appelée Marcoulis? Autre question, Ubame Avad, comment a-t-il servi cette idole? Beziboar, en immolant un animal, Bekitour, ou bien en faisant brûler des encens, ou bien Benissour, ou bien en offrant des libations, Beishtachaba, ou bien en se prosternant devant elle. Amaroula, Minain lehatra minatora, d'où sait-on qu'il faut avertir le criminel minatora pour pouvoir le condamner à mort? Ou la réponse, Shenemar, parce que le Pasuk dit dans Vaikra Kaf, concernant une personne qui commet un inceste, Veish asher ikach et achoto, celui qui aura une relation avec sa sœur Bataviv ou Batimo, la fille de son père ou la fille de sa mère, Veraa et ervata, et il a vu sa nudité. Alors la question se pose à Tubiriya Talia Milta, est-ce que la gravité de ce crime dépend d'avoir vu la nudité de sa sœur? Même s'il ne l'a pas vue, la gravité de ce crime reste la même. Et là, plutôt, c'est ainsi qu'il faut comprendre le pasouk. Achiar uhu tamo shel davar, jusqu'à ce qu'il lui montre, c'est-à-dire donc que les témoins lui montrent, la raison de l'interdiction. Autrement dit, nous comprendrons le pasouk de la manière suivante. Celui qui a eu une relation avec sa sœur, et il a vu la gravité de cet inceste, il sera puni. Im eno nyan le karet, si cette clause n'est pas nécessaire pour la peine du retranchement dans le monde futur, qui est infligée à la personne qui a une relation avec sa sœur, parce que cette peine est infligée par HaKadosh Baruch Hu dans le monde futur, qui sait si cette personne a commis ce crime volontairement ou non.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.